mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord m'excuser de m'adresser à cette assistance dans une langue qui n'est pas celle de la majorité de cette assistance. Je voudrais aussi m'excuser d'avoir distribué un papier en français seulement. Et en assistant à vos débats hier et en me rendant compte que la langue anglaise était très largement utilisée ici, je me suis dit et je me suis promis que la prochaine fois, j'adresserai à votre président et au secrétaire de la Société du Mont-Pèlerin un papier dans les deux langues, en langue anglaise et en langue française. Je voudrais vous dire que je ne ferai pas ici un exposé général ni un exposé doctrinal. Je voudrais au contraire me borner à vous dire quelques mots d'une expérience concrète, d'une expérience précise qui a été faite par mon pays et qui est l'expérience en somme permanente de la politique du commerce extérieur dans la mesure où ce commerce extérieur et cette politique du commerce extérieur peut être utile à l'expansion de certains pays en voie de développement. Et je voudrais tout d'abord vous dire quelques mots de la politique en matière d'aide technique. C'est une politique qui, nous sommes ici pour nous parler franchement, c'est une politique qui, dans un pays comme la Belgique, est évidemment intéressée. Pourquoi faisons-nous de l'aide technique? Eh bien, c'est pour, à long terme, développer le commerce. Nous avons constaté souvent quand dans le cas de grands pays industrialisés européens, par exemple, l'envoi de stagiaires, l'envoi de techniciens et d'autre part en sens inverse, l'invitation de techniciens est une politique qui rapporte. Je me rappelle d'un voyage que j'avais fait il y a quelques années au Maroc. J'ai été frappé de voir combien de jeunes Marocains, dans tous les milieux, parlaient bien l'allemand. Je leur posais la question, je leur disais, comment se fait-il que vous parlez bien cette langue? Ils m'ont dit, nous avons été invités en Allemagne. Nous avons fait parfois des études, d'autres avaient fait simplement un stage technique de quelques mois, et faut-il vous dire qu'ils étaient imprégnés de l'amitié qu'ils ressentaient pour le pays qui les avait généreusement invités. Eh bien, cela se retrouve dans le monde entier pour la plupart des pays industrialisés qui ont ainsi invité des jeunes gens chez eux. Je crois que c'est une politique à long terme utile au point de vue commercial et au point de vue politique mondial, bien entendu. Je crois donc que tout pays industrialisé, et je prends le cas de la Belgique qui est un petit pays industrialisé, peut se payer ce luxe assez bon marché de faire de l'échange technique. Luxe bon marché, je me réfère ici à un récent budget dans mon pays. Déjà depuis quelques années arrivaient en Belgique 400 stagiaires provenant de pays d'Amérique latine, de pays d'Afrique, de pays de Proche-Orient, de quelques pays asiatiques également. Et ces 400 stagiaires étaient très largement financiers, leur voyage était très largement financé par l'ONU. Mais depuis quelque temps, mon pays a décidé de pratiquer également une aide bilatérale, une aide d'invitation propre, avec ses propres moyens, de stagiaires et d'étudiants en provenance de pays en voie de développement. Eh bien, il était calculé que, étant donné que l'industrie privée est mêlée à cette aide et qu'on lui demande également d'y participer, puisqu'à long terme, tout de même, c'est elle qui en bénéficiera par ses exportations, eh bien, il était calculé que pour l'État belge, qui apportait une aide supplétive, cela revenait environ par étudiant, par visiteur de tout pays, en moyenne, à 50 000 francs belges, c'est-à-dire à 1 000 dollars. Ce qui est au fond très peu, ce qui a permis de prévoir pour un budget annuel l'invitation de 240 stagiaires représentant 12 millions de francs belges, c'est-à-dire également très peu pour un budget. Or, 240 jeunes gens venant visiter un petit pays, chaque année, sont évidemment une très bonne graine que l'on sème ainsi dans le monde entier et qui ira en se multipliant. Il y a non seulement l'invitation, il y a l'envoi à l'étranger de techniciens. Cela se pratique également très largement sur un plan multilatéral que vous savez, qui est notamment celui de l'ONU, mais je crois que chacun peut apporter son aide également bilatérale à certains pays en voie de développement. Et je crois que notamment une aide précieuse peut être l'encouragement du secteur privé, je songe, à certains bureaux d'ingénieurs conseils. Je me rappelle qu'il y a un an plutôt, dans mon pays, s'est créée une association des bureaux d'ingénieurs conseils qui, déjà avant même que l'État ne s'intéresse à la chose, s'était préoccupé d'une aide technique qui était alors évidemment une aide rémunérée. Ce sont des bureaux d'ingénieurs qui vont faire des études sur place, qui vont dans un pays du Proche-Orient, par exemple, qui doit construire une route ou qui doit construire un barrage, et qui vont alors faire une étude sur place. Il est évident que dans ce domaine des études, il y a une très grande surenchère, notamment des pays collectivistes, qui vont également sur place et qui ne disent pas je vais vous faire une étude, elle vous coûtera autant, qui disent je vais vous faire une étude, elle ne vous coûtera rien du tout. Et alors intervient l'utilité dans les pays occidentaux d'une aide des pouvoirs publics qui alors encourage ces bureaux d'ingénieurs conseils privés en leur payant des études, en leur disant allez sur place, proposez une étude et proposez-la gratuitement ou presque gratuitement. C'est alors l'État du pays industrialisé qui finance l'étude. Dois-je vous dire que ça a une importance considérable à la fois au point de vue économique et psychologique, au point de vue économique, car il est évident que la plupart du temps, c'est le pays dont les ingénieurs ont fait l'étude qui recevra la plupart des commandes. Et au point de vue psychologique et politique, dois-je vous dire combien les commandes elles-mêmes sont importantes parce que les commandes venant de l'autre côté sont évidemment de la propagande. Je voudrais vous dire aussi quelques mots des problèmes de financement. Je crois que là, toutes les nations industrialisées pratiquent le financement du commerce extérieur. Cela se pratique d'ailleurs entre pays industrialisés également. Il est frappant de voir combien entre nous, entre pays occidentaux, nous nous prêtons à moyen terme généralement lorsque nous nous vendons des biens d'équipement. Et là, les pays en voie de développement désirent aussi bénéficier de cette aide et il faut bien dire qu'ils font un peu de surenchère. Nous sommes, je crois, tous armés pour faire le crédit à moyen terme allant jusqu'à 5 ans. Il y a dans la plupart de nos pays des organismes qui s'en occupent. Dans mon pays, un organisme central a été créé qui n'est pas un nouveau parastatal, qui est simplement un moyen de coordination, une sorte de groupe de travail qui groupe les représentants des grandes banques para-étatiques ou privées qui font du crédit à l'exportation. Et ce groupe a l'avantage de détenir un pouvoir de décision. Il dispose de lignes de crédit dans les grands organismes bancaires et il peut donc en disposer, il peut donc décider et il peut répondre alors très rapidement aux demandes des exportateurs qui ont en vue certaines commandes. Donc pour le crédit à 5 ans, les choses sont possibles et assez généralisées. Et je crois que de plus en plus, nous nous entendrons tous ensemble, déjà dans le cadre du marché commun. M. Marjolin s'occupe à Bruxelles de ce problème de la coordination avec la compétence qu'on lui connaît. Et je crois que nous allons aller vers une multilatéralisation de cette aide financière, ou en tout cas, nous allons nous concerter de plus en plus, que ce soit à 6, que ce soit à plus, puisque nous en attendons d'autres, et que ce soit aussi sur le plan atlantique. Donc là, les choses vont. Par contre, le problème se pose, je crois, pour nous tous lorsqu'il s'agit d'aller au-delà de 5 ans. Et là, les pays en voie de développement font de la surenchère, comme je viens de vous le signaler. Ils font de la surenchère, ils nous disent, lorsque nous les visitons, lorsque nous allons chez eux en mission, ils nous disent à un tel autre pays occidental nous accorde 10 ans. Et bien entendu, du côté collectiviste, on nous offre bien d'autres facilités. Je crois que nous devons, dans une certaine mesure, résister à cette surenchère, et je crois que là, je parle un peu dans l'esprit de M. Le Duc, qui nous a parlé dans ce sens tout à l'heure, qui nous a dit qu'il ne faut pas donner tout ce qu'on nous demande. Il faut tout de même résister à certaines pressions du côté des pays en voie de développement. Et je crois qu'il y a là une surenchère à laquelle il faut être attentif. Je crois qu'il faut étudier chaque cas, et lorsqu'on étudie chaque cas d'achat de biens d'équipement par un pays en voie de développement, à un pays industrialisé, on se rend compte que très souvent, il ne faut prêter que pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, selon l'importance de l'équipement, et qu'il ne faut aller au-delà des 5 ans que dans le cas où il s'agit vraiment de grands travaux d'infrastructures qui ne seront rentables qu'à long terme. Je crois donc que là, il faut être prudent. D'autre part, vous savez qu'à côté du crédit, il y a l'assurance, à laquelle il a été fait allusion aussi tout à l'heure à cette tribune. Il y a l'assurance crédit, ce qu'on appelle le dû croire ou l'assurance crédit. Et là, nous sommes tous armés aussi, mais là, nous nous sommes entendus pour ne pas dépasser les 5 ans. Il y a l'accord de Berne qui nous impose de ne pas aller au-delà, ou si l'on va au-delà, d'en prévenir les autorités de l'accord de Berne. Néanmoins, comme en toute chose, et surtout lorsque le secteur privé y met son dynamisme, il y a toujours des solutions autres, et l'une d'elles, notamment, est le crédit financier. D'État à État. Tout ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'était toujours le crédit commercial qui ne peut pas aller au-delà de 5 ans, mais lorsqu'on pratique un crédit financier d'État à État, lorsqu'un pays comme la Belgique, par exemple, ça a été le cas, prête à Israël un montant déterminé, eh bien c'est l'État belge ou ce sont des banques para-étatiques qui prêtent à des banques ou des organismes officiels du côté d'Israël, ce qui résout le problème de la balance de paiement, et ce qui en fait est un prêt. Il y a donc des solutions. Et je crois qu'il ne faut pas en abuser et qu'il faut dans dans une certaine mesure, résister à cette surenchère des représentants des pays sous-développés qui nous disent à tous individuellement, vous savez, vous ne faites pas plus de 5 ans, mais vos amis français, vos amis britanniques, vos amis allemands font plus de 5 ans, soyez donc prudents, faites-le nous aussi. Lorsqu'on se renseigne à bonne source, on se rend souvent compte que c'est du bluff et qu'en réalité, la plupart des pays ne traitent pas au-delà de 5 ans, sauf lorsqu'il s'agit de très grands travaux d'infrastructure qui permettent alors le crédit financier, comme je vous l'ai dit il y a un moment. Je crois aussi que l'on va de plus en plus, et j'ai entendu que du côté allemand, on le faisait déjà, on va de plus en plus vers l'assurance non seulement des crédits, mais vers l'assurance des investissements. C'est une chose également qui nous est demandée par les pays en voie de développement. Là aussi, je crois qu'il faut être prudent, il faut étudier la chose. C'est du côté pakistanais notamment qu'on me l'avait dit, on m'avait dit du côté allemand, on est en train déjà progressivement d'instituer un dû croire, c'est-à-dire une assurance pour investissement, assurance donc contre les risques politiques. Renseigné à bonne source, j'ai appris qu'en effet cela se faisait et je crois que cela peut être développé. Cela doit cependant être développé avec prudence. Je me rappelle qu'à l'époque où cela m'était demandé, le gouvernement pakistanais insistait sur le fait qu'il ne pourrait pas obtenir de certains industriels belges des investissements au Pakistan s'il n'y avait pas ce dû croire, cette assurance pour investissement. Or, depuis lors, cette assurance pour investissement n'a pas encore été réalisée dans mon pays que je sache, et pourtant de nombreux investissements sont faits, et à la suite d'échanges de missions commerciales, il y a eu des décisions d'investir au Pakistan prises par des industriels belges qui n'ont pas tenu compte donc de l'absence de garanties politiques et qui ont décidé d'investir. Je crois donc qu'il y a encore un flot très puissant d'investissements qui peut se faire en provenance des pays industrialisés et par le secteur privé sans qu'il y ait trop de garanties du côté des États. Néanmoins, je crois que tout doucement, nous allons nous orienter vers cela, étant donné l'incertitude des investisseurs, étant donné leur inquiétude au point de vue politique, et nous allons nous orienter peut-être vers des solutions multilatérales qui seraient évidemment les meilleures, car elles apporteraient une sorte de pression morale sur le pays en voie de développement, pression morale pour qu'il ne nationalise pas trop vite et qu'il ne touche pas trop vite à ce qui lui a été apporté. Je crois, comme M. le Duc, que le commerce, et comme plusieurs des orateurs qui m'ont précédé à cette tribune, que le commerce est en général un grand moyen d'aide aux pays en voie de développement. Et je crois qu'à ce sujet, et c'est le troisième point que je voudrais souligner ici, la politique des missions commerciales est très rentable. Car au sein des missions, il y a non seulement les industriels, vendeurs, mais il y a aussi des banquiers, il y a aussi les représentants des organismes d'assurance crédit, et ma propre expérience me dit que la pratique des missions commerciales est extrêmement utile, car elle permet de donner une sorte de coup de boutoir à des négociations qui sont parfois en cours depuis de longues années, et qui alors aboutissent plus facilement parce qu'on se voit, parce qu'on se rencontre. Je crois donc que les missions sont utiles, elles sont d'autant plus utiles dans les pays en voie de développement, qu'elles permettent à leurs membres d'aller au plus haut niveau, et que, alors que lorsque nous nous visitons, par exemple, entre Français et Belges, ou entre Italiens et Belges, nous ne devons pas nécessairement aller voir les pouvoirs publics. Au contraire, il faut surtout voir le secteur privé, faire les affaires et développer les affaires avec le secteur privé du pays visité. Je crois, au contraire, que dans les pays en voie de développement, où les pouvoirs publics ont une importance croissante dans le domaine économique, dans le domaine des importations, dans le domaine des investissements, eh bien, dans ces pays-là, il faut arriver au niveau le plus élevé. Et je crois donc que la pratique de la mission commerciale, qui permet aux industriels du pays industrialisé d'aller au niveau le plus élevé, de rencontrer le ministre de l'Équipement sur place, de se faire ouvrir les dossiers, de savoir à l'avance qu'il y a un projet de construction d'usine dans 6 mois ou dans 1 an dans le pays en voie de développement en cause, je crois que tout ça est extrêmement utile et tout cela développe largement le commerce. Je voudrais souligner aussi que, en dépit des obstacles douaniers des pays en voie de développement, le commerce se développe. Et c'est peut-être un des miracles et l'une des choses les plus heureuses que nous constatons dans notre économie occidentale et dans l'économie où fonctionne un commerce libre, basé, dont les prix sont basés sur des prix de revient réels. Eh bien, c'est une des choses les plus heureuses que de constater qu'en dépit des obstacles douaniers qui frappent souvent les anciens produits industrialisés, les produits les plus classiques et les plus traditionnels, le commerce se développe. Pourquoi ? Parce que l'imagination créatrice des exportateurs d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale est suffisamment grande pour présenter aux clients des produits toujours nouveaux. Ce qui fait que, alors que nous entendons des voix pessimistes qui nous disent Mexicain ou du côté argentin, ça va très mal. On protège de plus en plus des produits industriels au fur et à mesure que se crée une industrie nationale. Eh bien, en dépit de cela, on constate que les chiffres de vente de certains pays européens, par exemple, vers certains pays sud-américains, qui se protègent de plus en plus, que ces chiffres de vente sont en progrès croissant. Ça, c'est le miracle du commerce. Il y a une spécialisation, il y a toujours de nouveaux produits. Et au fur et à mesure qu'un pays en voie de développement se développe, justement, son pouvoir d'achat augmente. Je voudrais enfin souligner un quatrième problème, qui est celui des matières premières et de l'achat de matières premières. Je crois que c'est un des grands problèmes. Je crois que c'est un des ceux qui provoquera peut-être tout à l'heure une discussion utile. Les matières premières, qu'est-ce qu'on nous demande? Eh bien, on nous demande la stabilité des prix. Et c'est une tâche bien délicate, car assurer la stabilité des prix pour les matières premières, c'est au fond accepter de fausser la concurrence internationale traditionnelle. Il est évident que si un pays occidental ou un groupe de pays occidentaux s'entend avec un pays en voie de développement ou un groupe de pays en voie de développement pour lui dire « Nous vous garantissons l'achat de matières premières à un taux déterminé pendant tout un temps », eh bien, ça va faire sortir ces pays qui font cet accord, ça va les faire sortir du prix du marché. Ça va leur faire payer des matières premières à certains moments, à un prix plus élevé pour certaines quantités de matières premières. Et il faut bien que ce prix plus élevé est offert par les pays collectivistes, et c'est dans cela que ça nous intéresse, notamment au point de vue politique. Ce prix plus élevé comporte une différence entre lui-même et le prix normal, et il faut que quelqu'un paye cette différence. Je crois que dans les pays collectivistes aussi, quelqu'un le paye, mais on ne sait pas toujours qui, puisque c'est noyé dans une comptabilité d'État souvent assez vague. Chez nous, quelqu'un doit le payer, alors qui le payera? Eh bien, ce sont certains industriels du pays ou certains États des pays industrialisés. Il faudra qu'ils trouvent cet argent quelque part, et alors ils seront tentés de le retrouver par la vente aux pays sous-développés des produits industriels vendus peut-être à un prix plus élevé. Et ça nous mène tout droit à l'idée de caisse de compensation qui serait alimentée par des ventes aux pays sous-développés et qui servirait alors à financer les différences de prix des matières premières en provenance de ces pays sous-développés lorsqu'elles sont achetées à des prix au-dessus du prix mondial. Ça pose beaucoup de problèmes, ça pose le problème de savoir, je pose simplement le problème parce que je l'ai vécu à certains moments, problème de savoir si c'est l'État du pays occidental qui va organiser ce test, ou bien si c'est le secteur privé qui le fera lui-même. J'ai assisté à des cas où le secteur privé le faisait lui-même, et où des groupes privés importants, je songe notamment à un cas concret qui a provoqué la négociation d'un groupe privé de mon pays avec certains vendeurs de matières premières d'un pays africain, qui était le Soudan. Ils avaient négocié, ils étaient arrivés à un accord, ce groupe privé devait être suffisamment important que pour pouvoir acheter des matières premières à un prix très rémunérateur et pour en échange avoir l'assurance de vendre certains pays industriels sur lesquels, certains produits industriels, sur lesquels peut-être ils reprenaient ou ils retrouvaient dans une certaine mesure ce qu'ils avaient perdu par l'achat des matières premières à un cours supérieur au cours mondial. Eh bien, j'ai appris que ces accords étaient difficiles, ils seraient donc d'autant plus difficiles s'ils étaient négociés par les États, que ces accords étaient difficiles, car très souvent, il y avait un nouveau venu qui surgissait au moment de la vente des produits industriels vers le pays en voie de développement. Nouveau venu qui n'avait pas participé à l'accord, qui était un outsider, et qui intervenait en vendant des produits industriels au cours alors mondial, à un cours plus bas que celui du groupe qui avait négocié cet accord et qui espérait bien, par la vente de produits industriels, se rattraper du sacrifice qu'il avait consenti en achetant de matières premières à un prix plus élevé. Je vous dis donc simplement le problème et la difficulté, le désir que nous devons avoir tous qui sommes dans cette salle de promouvoir quelque chose qui vienne du secteur privé plutôt que du secteur public, mais la grande difficulté qu'il y a à négocier un accord qui sera respecté par les deux parties et qui ne sera pas détruit à la longue par des nouveaux venus, et ça c'est le mérite dans une certaine mesure de la concurrence internationale où il y a toujours des gens qui viennent massacrer un marché qui va faire baisser un prix au profit du consommateur. Il y a donc là un problème sur lequel je souhaitais simplement attirer votre attention. Je crois cependant, comme l'ont dit certains des orateurs qui m'ont précédé, que le meilleur moyen de favoriser la vente de matières premières et bien d'autres ventes en provenance des pays en voie de développement, c'est l'ouverture des frontières. Il faut que nous accueillions leurs produits et leurs pays. Et là, j'ai vécu, hélas, dans la pratique des problèmes politiques socio-économiques et vécu les résistances considérables que nous rencontrons dans nos pays occidentaux à cette liberté des échanges avec les pays en voie de développement. On vient nous parler de dumping, alors qu'il ne s'agit pas nécessairement de dumping. On nous dit qu'il y a un dumping et ces gens-là nous vendent en dessous de leur prix de revient. Très souvent, ce n'est pas le cas. Ils nous vendent en tenant compte de leur prix de revient. Ou alors, on nous parle du dumping des salaires. Moi, je ne considère pas le niveau des salaires comme un dumping. Le niveau des salaires est une réalité. Tout ça produit dans les coûts des produits et ce n'est pas du dumping. Ce n'est pas vendre en dessous de son prix de revient. Bref, quelles que soient les raisons que l'on donne, nos résistances nationales sont considérables. Et c'est-à-dire que l'homme politique, qui est libéral et qui est membre du Mont Pèlerin, de la société du Mont Pèlerin, et qui voit se dresser devant lui les oppositions farouches des industriels nationaux, eh bien, il a une tâche souvent très difficile à accomplir. Et je vous dirais que devant cette tâche, la réussite la plus facile, la plus modeste, est d'empêcher de nouvelles protections. Je crois que lutter contre d'anciennes protections, c'est bien difficile, nous devons compter tout cela. Sur la politique générale qui est menée dans le monde par le BAP et par d'autres institutions. Mais je crois que nous pouvons déjà exercer une action utile en empêchant de nouvelles protections. Et là, je voudrais vous citer un petit exemple qui a été vécu par mon pays en ce qui concerne les huttes pakistanais. Et c'est un exemple extrêmement concret. Les huttes pakistanais peuvent importer en Belgique très librement. Il y avait une industrie belge du huttes qui fabriquait des sacs de très prospères. Et puis un jour, ces gens-là ont été un peu même désespérés et ont provoqué des réactions de toutes sortes, des interpellations, même à la Chambre. Ils ont été un peu parce que du côté pakistanais, on développait l'industrie. Ils disaient qu'on ne vendait plus simplement le jute brut, mais on fabriquait aussi des sacs. Et on favorise de même l'exportation de ces sacs en ne taxant pas trop leur sortie du Pakistan. Et ces sacs surgissaient sur le marché belge et détruisaient l'industrie belge. Quel était alors le problème? Eh bien, le problème immédiat qu'il présentait pour le gouvernement belge, de savoir s'il allait risquer de condamner au chômage les ouvriers, les employés, le personnel de l'industrie fabriquant des sacs de huttes. Parce que toujours le problème concret qu'on nous présente et qui nous frappe et qui nous pousse à faire des erreurs en matière de politique du commerce international. Mais alors, heureusement, il y avait l'autre camp, le camp des utilisateurs du sac de huttes. Et je crois que nous devons toujours un peu spéculer sur tout ce camp et sur le fait que nous avons avec nous l'autre camp, le camp des utilisateurs. Et ces gens-là venaient nous dire, nous avons besoin de ces sacs parce qu'ils sont bon marché et qu'ils nous permettent d'exporter, emballés dans ces sacs, de produits chimiques, des produits agricoles. Et sinon, si ces sacs meurent en valeur parce qu'on les protège, nous ne pourrons plus exporter tout cela. Eh bien, le gouvernement doit se opposer à la protection de ces sacs de huit. Il a permis donc au Pakistan de poursuivre une exportation essentielle pour ce pays qui non seulement nous vend mais nous achète tout de même aussi. Et grâce à cela, l'industrie du sac de huttes en Belgique n'a pas subi la crise qu'elle appréhendait ou qu'elle feignait d'appréhender. Elle a au contraire reconverti ses ateliers et elle a fabriqué des tapis de cisale. De telle sorte qu'elle a survécu, elle s'est adaptée et les utilisateurs de sacs de huttes ont pu continuer à les acheter à bas prix. Au plus grand profit de l'exportation même, puisque ce sont des gens qui exportent grâce à ces sacs. Voilà donc un exemple concret, mais qui démontre combien tout de même ce que nous affirmons ici, et ce en quoi nous croyons, est difficile à défendre, et combien, au moment même où il faut les défendre, on se trouve en présence de pressions violentes, des gens qui veulent vous dire je vais mettre du monde en chômage si vous ne me protégez pas, et je crois que c'est une lutte de tous les instants, c'est une lutte de tous les jours. Et grâce à ce truc, on arrive donc à maintenir un commerce avec des pays qui nous achètent aussi, qui ne se contentent pas de nous vendre. Et je voudrais, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, terminer en vous disant qu'il n'y a pas dans tout cela que l'action économique. Je crois qu'à côté de tout cela, il y a une action psychologique. Je crois qu'il faut parler aux pays en voie de développement un nouveau langage. Il faut d'abord aller leur parler de l'intégration européenne, car ils sont fort en deux. Ils étaient inquiets du marché commun, ils s'inquiètent peut-être maintenant un peu plus de ce marché commun élargi vers lequel nous allons. Je crois qu'il faut aller leur expliquer que ceux d'entre nous qui ont la possibilité de visiter les pays en voie de développement doivent y faire des conférences sur l'intégration européenne. Expliquer que l'Europe ne va pas se former. Et nous devons lutter d'ailleurs au sein de cette Europe nouvelle pour qu'elle ne se forme pas. Mais nous devons expliquer qu'elle ne se fermera pas aux pays d'outre-mer. Nous devons aussi donner des explications plus difficiles que des Brésiliens ou des Argentins nous disent, vous allez favoriser les importations en Europe de pays en provenance des territoires d'outre-mer ou associés. Il y a la désindication plus difficile à mener, mais que je crois que c'est même avoir après ces arguments que quand une intégration provoque une expansion économique et que des gens qui se développent économiquement deviennent de meilleurs acteurs. Il y en a néanmoins un dialogue, un peu un langage à apporter. Mais l'essentiel du nouveau langage, je crois que c'est de parler à ces pays autrement que par le langage traditionnel, non seulement de l'aide, car ils sont très susceptibles, mais du commerce. J'ai été frappé de constater que dans des pays, je pense à l'Iran par exemple, en Iran, on n'aime plus parler de commerce. On n'aime plus dire, je suis tout à la fin, mais c'est pas vivant, en effet, on n'aime pas dans ce pays-là que l'on dit, nous voulons vous vendre des produits industriels et nous vous achetons des matières premières. Car l'échange de matières premières et de produits contre des produits industriels apparaît à tort aux yeux de ces pays-là comme une survivance d'un système colonial que n'a d'ailleurs jamais connu l'Iran et que j'aimerais faire, mais qu'ont connu beaucoup d'autres pays. Ils imaginent à tort que le système colonial, c'est justement de fournir à bas prix des matières premières et de recevoir des produits par eux. Alors, il faut même être prudent sur ce plan-là. Il faut aller leur parler investissement, il faut leur parler échange de techniciens, il faut leur parler offre sur un peu d'égalité. Faut-il vous dire que lorsqu'on développe le vent de bien d'investissement, lorsqu'on développe la coopération technique et économique,